Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 1er février, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est un matin froid, évidemment, autour de moins 22 degrés. Vous dire qu'on a un avertissement de smog pour Montréal, donc pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, ça peut être un peu gênant aujourd'hui. Et un bulletin météo spécial. C'est très, très en dents de scie, vous allez voir. Je vous le disais, moins 22, le maximum prévu aujourd'hui après le dégagement et l'arrivée du soleil avec quelques nuages. C'est autour de moins 9 degrés. Quelques flocons. Marc vous le disait, on a un peu de brouillard ce matin à certains endroits. Et donc, des vents jusqu'à 40 km heure au cours de l'après-midi. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, encore là, peut-être quelques flocons, et température autour de moins 10 degrés. Demain, c'est moins 2. Tu dis, c'est pas mal, j'ai dit moins 2. Soleil, quelques flocons. Dans la nuit, ça tombe à moins 24. Et vendredi, c'est du soleil, moins 24. Et dans la nuit de vendredi à samedi, on prévoit moins 26. Pour le week-end jusqu'à maintenant, moins 18 samedi avec du soleil et de la neige prévue un peu dimanche autour de moins 3 degrés. Donc, si vous prenez la ligne, là, c'est moins 9, moins 2, moins 24, moins 18, moins 3. Ça, c'est strictement la lecture pour les prévisions durant la journée. Ce matin, je vais commencer par les cas de violence dans les écoles. Radio-Canada qui a obtenu par le biais de Marois Risky les chiffres concernant les incidents. Et là, il faut faire attention, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'un acte de violence dans une école? Globalement, on remarque qu'il y a dans certains centres de services scolaires beaucoup plus de gestes de violence que durant la période précédant la pandémie. Je vous donne quelques exemples de ça ce matin. Dans le cas du centre de service de Beauce-et-de-Chemin, en 2018-19, il y a eu 400 cas. Et l'an dernier, il y en a eu presque 1000. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits, par exemple les affluents dans Lanaudière, les cas de violence physique et verbale ont doublé, passant de 757 à plus de 2000. Puis là, on se défend un peu en disant qu'on a modifié la méthodologie, ce qui fait qu'il y a peut-être plus de cas. Dans certains secteurs, il y a plus d'élèves, plus d'étudiants. Et la grande question, est-ce qu'il y a plus de violence? Puis est-ce qu'il y a plus d'événements depuis la pandémie? Alors, il y a des profs qui semblent dire que oui, que des jeunes ont été affectés par le confinement. Le fait d'être isolés, retirés, ben ça crée des situations de tension. Puis, dès qu'il y a une contrariété, ça explose. Et on va y revenir un peu plus tard ce matin. Mais donc, il y aurait une augmentation du nombre de cas. S'il y a des profs à l'écoute, des gens qui travaillent dans l'univers scolaire, primaire, secondaire, faites-moi signe. J'ai reçu un courriel d'un parent que je vais partager avec vous, puis qui résume un peu ce qui se passe. C'est son fils qui subit l'intimidation. Son enfant a 7 ans et il connaît cette intimidation et violence depuis la maternelle. Et ça, ça veut dire coup de poing sur le nez, étranglement avec un objet, me dit-elle, des bleus sur les parties intimes, des attaques verbales sur son poids. Et à chaque fois qu'elle parle à des gens de l'école, c'est toujours un peu pour minimiser la situation. Là, j'ai pas la version de tout le monde, là. Mais elle dit, ils n'ont aucune empathie envers mon garçon. Et même quelqu'un de la direction lui a dit, vous devriez peut-être changer d'école. Puis là, en des termes, dit-elle, moins poli. Alors, ça a toujours existé le bullying, l'intimidation. Est-ce que c'est pire depuis les dernières années? Je le sais pas, mais je partage avec vous ces quelques données qu'est allée chercher la députée Marois Risky là, par l'accès à l'information. Là, on va parler politique. Ce matin, j'attendrai pas Jonathan pour en jaser, parce que hier, ça a été une journée où chacun a tiré sa corde politique. Commençons par M. Trudeau, qui a dit « J'appuie à 100% celle que j'ai nommée, Mme Amira El-Gawabi, au poste de conseillère sur l'islamophobie. C'est un appui inconditionnel. » Évidemment, c'est pas dans le vide, là. Il sait très bien que ça vient comme flatter une partie de son électorat ailleurs au Canada, notamment dans les grandes villes. Deuxièmement, certains députés du Québec, timidement, parce qu'on a beau essayer de les appeler, puis on dit « Venez donc jaser de ça », Pablo Rodriguez, M. Champagne, David Lametti, personne n'est disponible. Mais on sent un malaise. Mais M. Trudeau, qui est le boss, qui est le premier ministre, qui est le chef, lui, il dit « Non, 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 c'est la meilleure personne pour la job », puis les explications qu'elle a données sur l'étiquette de raciste qu'elle a apposée à une majorité de Québécois, c'est clair, et passons à un autre appel. Le Bloc québécois aura une rencontre aujourd'hui avec Mme El-Gawabi. C'est ce que demandait le chef Yves-François Blanchet. Ça va porter sur quoi, on le sait, mais comment ça va virer, ça, on le sait pas. Alors, est-ce que elle va réussir à le convaincre qu'elle n'a pas ce biais, qu'elle est capable d'établir des ponts entre les Québécois de souche, comme on dit, et les Canadiens de souche, puis les minorités, notamment donc musulmanes? Est-ce que c'est la bonne personne? M. Trudeau dit que oui. Mais personne au Québec semble croire que c'est la bonne personne. Puis là, j'arrive au Québec. Quand je parle de la joute politique, M. Legault a dit que c'est du mépris envers les Québécois. Il ne comprend pas que Justin Trudeau s'entête. Et là, on a déposé une motion pour dénoncer cette nomination, exiger la démission. Les libéraux du Québec, qui sont partis un peu croche, se sont raplombés en cours de journée avec le chef M. Tanguay. Mais là où c'est intéressant, c'est Québec solidaire. Les questions d'identité, de laïcité, de signes religieux, de relations avec les autres, c'est toujours, toujours là, hyper délicat. Et hier, on l'a vu, Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « Moi, je suis pas le genre à me lancer pour demander des démissions. » Ça, c'est vu dans le passé. Un des députés de Québec solidaire, nouvellement élu, qui a dit « Ben, savez-vous, c'est encore une fois une forme d'attaque. » Je parle du député Haroun Bouazi, qui accuse M. Legault de détourner l'attention des problèmes en pointant une femme voilée. Il faut évidemment victimiser la personne qui est nommée. Et là, Québec solidaire dit « Ouais, mais on devrait parler de changement climatique, on devrait parler de crise économique, d'inflation, de l'école publique, de ce qui se passe dans les urgences, dans les hôpitaux. » Et donc, M. Legault fait de la distraction avec ça, fait de la petite politique. Si c'était une autre question, Québec solidaire serait moins gêné. Mais c'est sûr qu'auprès de la base militante, puis d'une partie des membres, ce sont des sujets délicats. Pas ceux qui sont si mal à l'aise, même si je pense que M. Nadeau-Dubois est sincère, parce que se faire traiter de raciste, je pense qu'il est moins un peu, disons, outré que certains autres. Alors hier, vraiment, là, on a eu droit à une joute politique, tant au fédéral que du côté de Québec. Alors, on verra pour la suite avec cette rencontre avec le chef du Bloc, M. Blanchet, qui sera avec nous tantôt. On va parler d'Hydro-Québec, si vous me permettez, parce que la question, elle se pose ce matin, qu'est-ce qui se passe chez Hydro-Québec? La présidente quitte, la présidente du conseil d'administration quitte, il y a un vice-président qui lève les feutres également. On est dans un contexte où Hydro-Québec, dans un mémoire présenté hier, nous explique qu'on pourra pas répondre à toutes les demandes des énergies, des entreprises, pardon, énergivores. Le ministre Fitzgibbon a dit à peu près la moitié seulement des requêtes qu'on a reçues pourront avoir un suivi et une réponse positive. Parce que les besoins énergétiques des Québécois augmentent. Et là, ce matin, Radio-Canada nous apprend que Hydro-Québec sous-utilise des barrages en pleine saison de pointe hivernale. Le potentiel perdu atteint 1000 mégawatts, alors qu'on cherche, c'est le discours, à dire qu'on a besoin de plus de production d'électricité. C'est Thomas Gerbet, de Radio-Canada, qui a fait enquête. Et donc, ce sont des barrages qui sont à l'arrêt durant l'hiver. Et selon les sources et les documents internes, On a donc pu chiffrer la sous-utilisation à 1000 mégawatts. Alors, donc, on n'est pas capable d'aller chercher le plein potentiel, supposément, de la capacité d'Hydro-Québec. Plus au nord, la plus importante centrale du Québec n'offre pas non plus son plein potentiel. Un problème de transformateur qui empêche la centrale de LG2 d'injecter sa pleine puissance sur le réseau, c'est un déficit de 12 % de sa capacité. Donc, il y a une série de problèmes. J'imagine qu'on peut les corriger, mais actuellement, Hydro n'est pas à plein régime. Mais on a le droit de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur, puis on n'est pas des imbéciles, là. On sait qu'il y a eu des tensions. Mme Brochu n'est pas partie pour rien. Hier, en apprenant le départ du VP, M. Filion, tu te dis, OK, ils ne l'ont pas choisi pour être un des candidats à la succession de Mme Brochu, c'est tout ça. C'est quand quelqu'un se contente de dire, après quelques années chez Hydro, je m'en vais faire autre chose, là, secteur privé, dans un contexte, appelons ça, d'instabilité. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'employés d'Hydro-Québec, retraités et toujours à l'emploi, qui m'écrivent et qui sont un peu découragés des derniers soubresauts dans le cas de Hydro-Québec. Très bien. On va parler aussi, disons, d'une série de questions qui se posent à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ils ont fait un investissement de 200 millions dans Celsius Network. On est dans la crypto-monnaie. C'est une crypto-banque qui s'est complètement effondrée. Et c'est donc une perte pour la Caisse de dépôt. Et là, on apprend dans un rapport d'une ancienne procureure américaine fédérale qui a été rendu public hier qu'on ne comprend pas comment les investisseurs, dont la Caisse, ont pu mettre de l'argent là-dedans. Je cite l'article de la presse ce matin, « Comptabilité digne d'un dépanneur de coin ». Des stratagèmes qui ressemblent drôlement à des chaînes de Ponzi, des pratiques douteuses. Pour vous donner un cas, là, on apprend qu'ils ont géré une entreprise supposément d'une valeur de 3 milliards avec un logiciel qui s'appelle QuickBook que vous utilisez personnellement ou si vous avez une petite entreprise. Tu dis, mais ça se peut pas qu'il ait géré ça comme ça. Et donc, la conclusion, c'est que entre le discours de l'entreprise et ses pratiques d'affaires fumeuses, douteuses, tu dis, mais comment une institution qui a l'habitude de vérifier avant d'investir est allée mettre 200 millions là-dedans? On n'a pas vraiment de réponse non plus, mais c'est clair que la Caisse va devoir s'expliquer. Puis je sais qu'on va nous dire 200 millions sur l'ensemble des actifs, c'est peu, c'est vrai, mais en même temps, c'est beaucoup. Et tu dis, mais qu'est-ce qui leur a échappé dans les vérifications avant de prendre l'argent puis d'investir dans cette entreprise? Vous êtes nombreux à m'écrire pour me parler de la rupture de service à la Société d'assurance automobile du Québec. Puis là, ça va de permis de travailleurs étrangers, permis de conduire, qui ont besoin d'aller renouveler. C'est pas dans, semble-t-il, la liste des priorités. Essaie d'avoir un rendez-vous actuellement pour un examen pratique. Oublie ça, c'est reporté dans... Bon. Tu veux vendre ton auto à un particulier, oublie ça. Attends, supposément jusqu'au 20 février. Je comprends le changement de plateforme, là, les milliards de données qu'il faut aller chercher, mais ce qui m'énerve, je dois vous le dire, là, c'est quand ils nous ont annoncé l'arrivée de ce logiciel, ils n'ont pas dit au départ qu'on aurait tous ces problèmes-là. Puis là, c'est arrivé à partir de la fin de semaine et semble-t-il qu'il n'y a rien à faire. Puis là, M. Desrosiers, qui était avec nous hier de la Société d'assurance auto, nous dit « Ouais, mais peut-être il y a moyen de s'arranger. Présentez-vous. » Je ne sais pas si M. Desrosiers a un relevé terrain, là, mais les arrangements sont assez difficiles à obtenir. Puis là, facile de blâmer les gens en disant « Vous vous attendez à la dernière minute, vous auriez dû venir avant, on a envoyé des informations. » Mais ça demeure quand même un service public. Pas paralysé pour 24 heures, là, jusqu'au 20 février. Ça, c'est minimalement, c'est ce qu'ils nous disent. Puis on sait quand on joue là-dedans, pas impossible qu'il y ait des surprises. Alors, je comprends un peu vos frustrations. Rapidement, dans les autres nouvelles, ce matin, dans le Globe and Mail, on apprend que quand vous portez plainte contre une compagnie aérienne, vous avez... le vol a été annulé, il y a eu des délais, etc., etc. On a supposément des droits comme voyageur. Le problème, c'est que 97 % des plaintes ne sont pas vraiment vérifiés par l'Agence canadienne des transports, par Transport Canada. qui a un certain nombre de pouvoirs. 97 %. Alors, si vous portez plainte, sérieusement, bonne chance, et vous allez vous perdre dans les dédales, puis les compagnies seront jamais comme telles, disons, punies. Ou elles le seront très peu par rapport, disons, au volume de plaintes qui existe. Aussi, ce matin, dans le Devoir, vous pourrez lire quand même comment la Cité de la Santé de Laval a pris un virage en amenant des patients sur les étages. Ça peut sembler d'une évidence, là, mais c'est comme une des solutions préconisées là-bas. Et ça a permis d'enlever de la pression. C'est assez intéressant. Tu dis, OK, ils l'ont fait à la Cité de la Santé, ce qu'ils peuvent le faire ailleurs. Tout ça arrive alors qu'on nous propose maintenant ce tableau de bord avec l'accès en temps réel à un médecin dans les salles d'urgence, supposément pour nous permettre d'aller magasiner. Tu sais, si on n'est pas trop amoché, là, tu dis, OK, est-ce que je vais à Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini, si je suis dans l'est de Montréal? Je suis mieux de faire une couple de kilomètres de plus, puis, je sais pas, aller vers Cité de la Santé? C'est, disons, l'offre qui est faite, c'est pas parfait, mais c'est quand même une forme d'indication qui vous est donnée. Ça vient pas évidemment tout régler, les problèmes dans les salles d'urgence. En parlant de la santé, je vais revenir ce matin sur un cas qui touche beaucoup d'employés du réseau dans le secteur des centres jeunesse. Et, pardon, ce sont des employés à qui on a dit « vous avez droit à une prime ». On a besoin de vous autres. Et de façon exceptionnelle, on vous offre une prime. Grosso modo, là, 1200 employés ont eu droit officiellement à cette prime. La preuve, on l'a reversée. Sauf que ça a pris un an. Un an avant d'obtenir la prime. Là, un certain nombre d'entre eux se font dire que finalement, vous n'aviez pas droit à la prime. Puis non seulement vous n'avez pas droit à la prime, mais on a commencé les prélèvements. On parlait avec le syndicat, le CIUS, qui est concerné par cette affaire-là, dans le Sud, et pas disponible avant demain. On sait que le mammouth, ça bouge pas vite, là. Mais ils ont confirmé, puis ils mettent ça sur le dos de la firme informatique qui s'occupe des services de paye, en disant qu'ils n'ont pas été capables. On sait aussi que, c'est Logibec, le nom de l'entreprise, on sait aussi que c'est hyper compliqué, les systèmes informatiques vieillissants du réseau de la santé. Puis les conventions collectives, c'était pas de même. Mais quand je vous dis souvent, entre ce que Québec annonce avec tambour et trompette, on donne des primes, on veut vous garder, on a besoin de vous autres. Puis le temps que ça descende, puis le temps que les scènes arrivent dans ton compte de banque, ben ça peut prendre une éternité. Puis après ça, on se demande pourquoi, comme climat de travail, c'est pas terrible. Je vais vous en reparler aussi ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, on peut découvrir ce matin un cas dramatique de jeunes qui est allé jouer dans les fameux sites en ligne qui sont illégaux, là, qui sont pas sous juridiction. Le kid de 26 ans, il a gagné 100 000, il a perdu 100 000 en peu de temps, puis il s'est suicidé. Puis il n'y a pas grand recours, là. Tu sais, quand on dit « t'as gagné 100 000, mais on va te rembourser à coût de 25 000 par semaine », vous n'avez à peu près, je dirais, aucune arme pour vous en prendre à ce genre de casino en ligne. Je sais que plusieurs le font en se disant c'est plus payant que ce que l'Auto-Québec opère, puis ce qu'on retrouve de façon légale. Mais disons qu'il y a un potentiel assez élevé, si jamais vous gagnez, de pas voir les gains que vous avez faits.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
La question qui revient, je pense, ce matin, et depuis déjà un bon bout de temps, qu'est-ce qui se passe chez Hydro-Québec? On a vu ce mémoire présenté en nous disant, si on accepte toutes les demandes, ça veut dire, en termes de besoins énergétiques, la construction de 13 barrages du genre La Romaine. Pierre Fitzgibbon, le ministre, a dit hier, on peut répondre à 50 % de la demande. On a appris hier qu'un VP quittait. Hydro-Québec, M. Filion, c'est un poste clé. Madame Brochu s'en va, la présidente du conseil d'administration. On va regarder un paquet d'enjeux et qui vous concerne parce qu'on entre dans une période froide là, pour quelques jours. Dave Réaume, pardon, est vice-président planification intégrée des besoins énergétiques et risques chez Hydro-Québec. M. Réaume, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, je veux comprendre le mémoire que vous avez présenté. L'objectif, c'était quoi? C'est de dire, là, si on dit oui à tout, voici ce que ça représente?
Il y a deux portions au projet de loi. Le premier, c'est aujourd'hui, Hydro-Québec a l'obligation de desservir tout client de plus de 50 MW. Peut-être que cette ligne-là devrait être abaissée à 5 MW. Donc, on a présenté notre position, on est favorable à cet abaissement-là du seuil. Puis l'autre portion, c'est le plafond sur l'augmentation des tarifs résidentiels à 3%.
Les entreprises là, qui font des demandes, là, quel genre d'entreprises essentiellement? Je ne parle pas des entreprises déjà implantées, là, mais celles qui veulent venir au Québec.
Donc, on a parlé de 23 000 MW là, d'entreprises qui appellent puis qui disent « je veux venir au Québec ». C'est beaucoup des nouvelles filières. Centres de données, hydrogène, filières batterie, c'est beaucoup ces filières-là. Et aussi des projets importants, je dirais, dans le secteur de la métallurgie.
Les centres de données, c'est demandant en termes d'électricité, mais ça ne crée pas beaucoup d'emplois.
Ça crée des emplois dans des, je dirais, de nature spécialisée. C'est sûr que c'est pas comme...
Une allumerie, là.
Non, c'est pas comme une papetière ou ce genre d'usage-là industriel.
OK. Et là, je veux juste essayer de comprendre, là. Est-ce que c'est vous, Hydro-Québec, qui avez le dernier mot ou c'est le gouvernement qui décide si on dit oui ou non à un projet?
Ben, dans le cadre du projet de loi, ce serait le gouvernement qui choisirait les projets. Mais ce que nous, Hydro-Québec, on a le pouvoir, c'est nous... On peut pas inventer d'électrons. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au ministre, voici ce qui est possible de raccorder. Voici les marges de manœuvre qu'on a, par poste, par zone sur l'ensemble du Québec. Voici ce qui est faisable. Puis une fois qu'il sait c'est quoi la marge de manœuvre, c'est à travers l'examen des avantages le socio-économiques et environnementaux qu'il va pouvoir choisir, ben, laisse passer celui-là, puis dit aux trois autres d'attendre le temps qu'on soit capable d'ajouter des capacités.
OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'à peu près 50% des projets sont faisables?
Ben, nous, aujourd'hui, on a estimé à 4000 MW sur la prochaine décennie ce qu'on va voir comme croissance. Je pense que j'ai vu dans les déclarations là, qu'on parle de 8000 MW, donc vraisemblablement sur une période à plus moyen long terme. Oui, c'est l'ordre de grandeur de la croissance de la demande qu'on anticipe.
OK. Quand vous faites vos projections, là, quand vous regardez votre capacité, bon, les gens vont se tourner de plus en plus vers les voitures électriques, électrification des transports. Vous me parlez des demandes, là, parce que le Québec, c'est sûr que ça suscite de l'intérêt. On est capable d'abord d'alimenter les Québécois pendant combien d'années encore sans augmenter la capacité de production, sans aller vers des barrages, des éoliennes et tout ça, avec ce qu'on a?
Avec ce qu'on a, on a environ encore à peu près 5 années, mais on a, je dirais, des moyens relativement routinier à mettre de l'avant pour une prochaine décennie. Donc, lorsqu'on fait notre planification 10 ans, là, oui, il y a des investissements à faire, mais les 10 prochaines années, c'est pas transformationnel. T'as pas besoin d'aller de l'avant avec des grands rehaussements des projets majeurs.
Donc, OK, des projets majeurs, ça implique une planification, puis c'est souvent sur plusieurs années, ça.
Exact.
Donc, ça veut dire que si on veut projeter plus loin que 10 ans, il faut y penser maintenant.
C'est ce qu'on fait. Actuellement, on a une planification, plein de scénarios, disons, sur l'horizon 2050. Puis ce qu'on regarde, puis c'est ça qu'on discute, c'est-à-dire si on va ajouter des milliers de mégawatts, que ce soit pour de la décarbonation ou de la croissance économique, faut le planifier parce que les infrastructures prennent une dizaine d'années à déployer.
OK. Est-ce qu'il y a encore des endroits au Québec où on peut construire des barrages?
Absolument, absolument. On connaît le potentiel, hydrique du Québec, puis la liste des endroits où ce serait possible de le faire, puis c'est des études qu'on a annoncées dans le cadre du plan stratégique, qu'on mettait à jour pour s'assurer qu'on avait les données les plus probantes sur la viabilité de ces projets-là.
Ah, donnez-moi un exemple d'endroit au Québec où si politiquement on décide de, je sais pas, développer un barrage, ce serait un des premiers endroits qu'on regarderait.
On n'a pas, en toute transparence, le gros critère au-delà de la capacité physique du site, c'est l'acceptabilité aussi autour. Donc, c'est quoi le type de partenariat à bâtir avec les communautés? Donc, ce volet-là, on est actuellement en étude préliminaire. On a répondu à une question là-dessus hier. On n'a pas commencé à aborder les communautés autour
mais
de
ça. Mais sans les communautés, là, juste la capacité, le potentiel. Je comprends qu'il faut s'entendre avec les voisins, puis les Premières Nations, par exemple. Mais Donnez-moi des exemples de sites là où on pourrait installer un barrage.
Je comprends votre question, mais de nommer un site, c'est laisser entendre qu'il y a un endroit actuellement au Québec qui est en haut de la liste.
Et m'en nommer trois.
Non, mais honnêtement, les rivières, c'est les rivières du Québec là. C'est les rivières du Québec à l'ensemble. Mais il y en a plusieurs dizaines. Là. Donc on n'est pas dans un cas où il reste trois endroits, puis c'est là que ça doit être. On a une diversité de rivières qui ont différents attributs, certaines plus stables, d'autres avec plus de potentiel. Puis c'est ça vraiment qui est évalué. Puis lorsqu'on a fini la mise à jour de l'ensemble, c'est là que tu t'assois avec les communautés, puis tu essaies de voir c'est quoi l'intérêt dans les différentes régions, des avantages, mais aussi des inconvénients qui viennent avec ce genre de projet-là.
Vous êtes vice-président, planification intégrée, on vient d'en parler, des besoins énergétiques. Je parle à des experts qui me disent que si on veut vraiment maximiser le potentiel, il faut revoir la tarification. Que ce soit la tarification selon les moments de la journée, selon le type de consommation, mais que les Québécois, de façon générale, consomment pas bien leur électricité. Êtes-vous d'accord avec ça?
Pas bien, je trouve ça sévère. Écoutez, on a des tarifs bas, puis quand quelque chose est moins cher, on y fait moins attention. C'est dans la nature humaine. Donc, est-ce que il faut de plus en plus travailler notre muscle collectif de l'efficacité énergétique puis d'être sensibilisé à comment on consomme, c'est essentiel. L'ampleur des besoins dont on a besoin d'ici 2050 pour décarboner, lorsqu'on dit un demi-hydro de plus, c'est majeur. C'est des infrastructures qui vont affecter les gens autour. Donc, il faut s'assurer, avant de déployer des infrastructures, qu'on a collectivement travaillé notre muscle, c'est-à-dire, est-ce que cette consommation-là est essentielle puis est efficace?
Là, Radio-Canada nous dit ce matin que actuellement, pendant la période de pointe de l'hiver, il y a des barrages qui ne sont pas fonctionnels à pleine capacité. Un, est-ce que c'est vrai?
C'est exact, ça arrive.
Et pourquoi?
Ben, deux catégories. On a des ce qu'on appelle des maintenances planifiées. Donc, un actif comme un barrage ou une ligne de transmission, un poste, éventuellement, faut intervenir dessus. Donc, il faut le débrancher pour être capable de faire des travaux. De façon générale, on planifie ce genre de travaux-là en dehors des périodes de pointe parce que c'est moins problématique. Mais il arrive des bris. Il arrive des équipements dans le cas, on a un équipement actuellement, là, à la grande où il y a de l'air dans un transfo. Ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu arrêtes l'équipement puis que tu fasses une maintenance pour t'assurer de le remettre en fonction. Mais quand on planifie, on prévoit ça. Tu le sais que quand tu planifies ta flotte d'équipements pour une compagnie comme Hydro-Québec, il va y avoir des bris. À tous les jours, autour de 95, 96, 97 % de disponibilité, c'est qu'il y a 1 à 5 % qui manque régulièrement. Ça fait partie de la planification.
OK. Est-ce que, puis là, les auteurs se posent cette question-là, le fait qu'il manque de 1 à 5 %, on dit peut-être 3, là, est-ce que ça peut avoir un impact sur la capacité de Hydro de fournir les Québécois durant une période où la demande va être forte en raison du froid?
Absolument pas. Aujourd'hui, soyons très, très clairs, là, dans notre planification, on tient compte d'un niveau de retrait raisonnable. Puis on fait des analyses de risque pour s'assurer qu'on prend en compte certaines marges de manœuvre. On a des moyens aussi de gestion aujourd'hui auxquels on n'a pas recours. On a des turbines qu'on utilise en cas uniquement de pointe. On a des ententes avec des grands industriels pour des effacements si jamais on rencontrait des enjeux de fiabilité du réseau. Donc, on a des moyens pour prévoir. Si je peux me permettre, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer d'avoir une discussion sur dans les 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qu'il va falloir bâtir. Puis on nous parle aujourd'hui comme si on manquait déjà d'énergie. On n'aura jamais exporté autant d'énergie cette année.
Mais le fait d'avoir, 3 % de manque, est-ce que ça affecte les contrats puis vos obligations face aux autres?
Ça fait partie des marges de manœuvre qu'on a au-delà de nos obligations.
Vous dites pas, par exemple, à un État américain, on peut pas vous livrer ce qu'on a promis?
Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, quand on a un engagement ferme avec un État américain, on livre sur cet engagement-là selon les termes du contrat. Mais à la fin de la journée, là, aujourd'hui, ce qu'on a, là, c'est plus de 30 TWh, là, c'est plus d'une décennie de croissance de la demande au Québec qu'on a encore en excédent au Québec que personne n'a contracté. Il n'y a pas un État qui nous a signé un deal pour ça. Les Québécois, il n'y a pas la demande pour le prendre. Donc, à tous les jours, là, on est assis encore devant des surplus, puis on les vend. Donc, est-ce que c'est dommage quand il y a un actif qui est au retrait parce que c'est une perte, c'est une vente qu'on pourrait faire qu'on perd? Absolument. Mais ça va continuer d'arriver. Ces équipements-là ne peuvent pas être opérés 100 % du temps. Puis des bris, ça fait partie de notre vie.
Si je résume, là, ce que vous me dites dans le fond, c'est que on a encore du jus, là, on a encore du pouvoir pour peut-être 10 ans, mais il faut penser à plus long terme sur ce qu'on va faire. Et l'enjeu, un des enjeux, ce sont les choix. On a des entreprises, j'allais dire gloutonnes en électricité qui veulent venir ici. Puis combien on en prend? Puis quelle quantité on leur fournit, puis à quel prix on leur vend ça?
C'est exactement ça. Puis, on s'est rassuré, quand on dit qu'on abaisse le seuil là, à 5 mégawatts, 5 mégawatts, c'est moins de 300 clients au Québec. Là. Donc, électrifier des véhicules, des bâtiments, la croissance sur la rue principale d'un endroit, là, ça, c'est pas affecté par cette règle-là. Ça, ça passe en premier. C'est essentiel que quelqu'un qui se bâtit une maison, un nouveau quartier résidentiel, il veut de l'électricité, ça, on sert ça. Ce qu'on dit, c'est, après ça, il va rester une certaine marge de manœuvre, puis elle est beaucoup plus petite que l'ensemble des grands industriels qui veulent s'installer au Québec. Donc, c'est là qu'il va falloir faire un choix de quelle quantité à quel prix.
Puis vous dites à Pierre Fitzgibbon, voici ce qu'on a en stock, puis après ça, voici ce que vous décidez politiquement, puis c'est dans votre cour à ce moment-là.
Exact. Voici ce qu'on a en stock, puis voici la vitesse à laquelle il est réaliste d'accroître notre stock dans le temps. Puis c'est vous qui êtes mieux placé qu'Hydro-Québec pour juger qu'est-ce qui a le plus de retombées économiques, sociales, environnementales, puis qui s'inscrit dans le paysage industriel du Québec.
C'est un gros mois de janvier chez Hydro-Québec. Votre présidente s'en va, la présidente du CA. Hier, on apprenait que M. Fillion, VP, va aussi quitter. Vous êtes vice-président. Qu'est-ce qui se passe chez Hydro-Québec?
honnêtement, moi, j'ai, en toute transparence, j'ai été surpris d'apprendre le départ d'Éric. Moi, c'est Éric qui m'a embauché. C'est un super collègue, gros rôle chez Hydro-Québec. Je tiens juste à rassurer quelque chose. Là. Sophie Brochu, Éric Fillion s'en vont. C'est des gens qui ont beaucoup d'influence chez Hydro. C'est sûr que ça crée des inquiétudes. C'est des leaders, puis c'est des gens vers qui toute l'équipe regarde. D'un autre côté, ce matin, il y a de l'air dans un transfo à la grande. C'est pas Sophie Brochu et Éric Fillion qui vont régler ça. Là. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des équipes de gestion, il y a des professionnels, des ingénieurs, des techniciens. Les gens, ils sont conscients du travail qu'ils ont à faire. Donc, bien que ça crée des remous, c'est sûr, on lit plus souvent Hydro-Québec dans le journal depuis quelques jours. Les gens, ils ont une job à faire, puis ils savent ce qu'ils ont à faire.
Vous savez ce qu'on dit? On dit que M. Fillion pensait peut-être avoir la présidence, qu'il l'aura pas, puis qu'il retourne avec son ami M. Martel chez Bombardier. Avez-vous entendu parler de ça?
J'avais pas entendu la version qu'il retournait chez Bombardier. C'est possible. Honnêtement, il m'a pas dit où y aller.
OK. M. Réon, merci beaucoup d'être venu ce matin. Vraiment apprécié.
C'était un plaisir.
Dave Réon, mes vice-présidents, planification intégrée des besoins énergétiques et risques chez Hydro-Québec. Si on résume un peu la journée d'hier concernant le dossier controversé de cette conseillère Amira El Gawabi, on a vu M. Trudeau de façon très claire, ce qui n'est pas d'ailleurs habituel chez lui, souvent un peu plus hésitant ou nuancé. M. Trudeau a dit, écoutez, c'est la bonne personne au bon poste et je l'appuie à 100%. En parallèle, vous avez des ministres fédéraux, Pablo Rodriguez, qui semble un peu moins confortable. On dit que le ministre Lametti aussi, mais ils font pas de grandes sorties publiques, là. C'est des espèces de murmures de corridor pour montrer qu'ils sont pas hyper heureux de ça. Entre-temps, à Québec, le premier ministre Legault dit que M. Trudeau cautionne le mépris envers les Québécois. Et là, on est dans une spirale. Les libéraux du Québec ont dû s'ajuster hier matin. Ça a été un peu, disons, le coup de force de Marc Tanguay après la sortie d'une de ses députées qui était assez d'accord avec cette nomination. Et puis, on a vu cette tentative de motion, donc, à l'Assemblée nationale, puis Québec solidaire, qui est jamais à l'aise avec les questions d'identité puis de laïcité, qui a dit, ben là, nous, on grimpe pas comme ça dans les rideaux, puis on demande pas les démissions des gens. On sait évidemment très bien qu'il y a une partie du membership de Québec solidaire qui, disons, capote à chaque fois qu'on aborde les questions comme ça de laïcité. Et il y a même un député qui a dit, ben, on est en train d'attaquer une femme voilée. Alors, tu sais, comme jeu de politique, c'était quelque chose. Et puis finalement, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, aujourd'hui va rencontrer Mme El Gawabi. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien, bonjour.
D'abord, peut-être les détails de cette rencontre, c'est quand, ça va durer combien de temps, c'est où, comment ça se passe?
C'est à 12h45. Je m'attends à ce que ça dure environ 45 minutes. Ça va être une rencontre privée. Les médias peuvent venir faire une petite opération photo au début, mais la rencontre n'est pas publique. Pour ma part, je ne réagirai pas immédiatement après parce que l'idée est, passez-moi l'expression, de me faire une tête, là, de voir bon. Avec, parce que, comme vous le disiez, il y a une espèce de surenchère et de spirale qui. Je suis plus pour elle que toi, je suis plus contre elle que toi. Moi, j'ai pas envie de jouer là-dedans. Je me fais pas d'illusions sur le résultat de la rencontre, mais ce sera pas une rencontre hostile. C'est pas son procès. Elle ne s'est pas auto-nommée. Elle a exprimé des opinions souvent injurieuses à l'encontre du Québec. Il y a eu des excuses du bout des lèvres, un acte de contrition assez mou qui a été fait. On va voir jusqu'à quel point on est capable de raffermir ça. Et c'est dû à une méconnaissance, à une ignorance de l'histoire du Québec. Elle n'a pas l'air de savoir que l'idée même de laïcité au Québec est antérieure à l'idée d'islamophobie qu'on véhicule à tout vent aujourd'hui. Ça remonte au début de la Révolution tranquille, puis c'est les soutanes catholiques qu'on voulait sortir des écoles. C'est plus l'exercice qu'on va faire maintenant. Je me questionne beaucoup sur l'intention du Justin Trudeau. Comme vous disiez, il y a des ministres québécois, puis dans ceux que vous avez mentionné Lametti, mais évidemment,
Rodriguez
a été plus intense, François-Philippe Champagne avait exprimé des réserves, et ça, ça a été mis de côté, et pas un petit peu, à 100%, comme le dit lui-même le premier ministre, c'est ces ministres de la région de Toronto qui se sont exprimés fortement, puis qui trouvent ça bien correct, eux autres, d'avoir insulté les Québécois, puis d'avoir dit que les Québécois, c'est des racistes. C'est cool, ça. Il n'y en a pas de problème. Et là, évidemment, ben, on voit que le choix de Justin Trudeau, c'est Toronto. Ce n'est pas le Québec. Et M. Rodriguez, qui est souvent allé au front pour vendre les positions invendables de Justin Trudeau au Québec, se fait dire, va t'asseoir dans le coin. C'est pas toi que je vais écouter cette fois-là. Moi, je m'intéresse à l'intention de M. Trudeau là-dedans. C'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui a fait faire les vérifications sur ses affirmations passées. Pourquoi est-ce qu'il se permet une pareille provocation? Est-ce que c'est parce qu'il veut, une fois pour toutes, dire aux Québécois, on va vous casser là-dessus, ou par manque de jugement? Je vais essayer de comprendre, c'était quoi la démarche, comment M. Trudeau a demandé à Mme El-Gawabi de percevoir son propre mandat.
Mais je reviens,
de cette dame.
Je reviens à votre rencontre, là. Pourriez-vous en ressortir en disant « j'ai été rassuré, elle a formulé des excuses, disons que ce qu'elle me dit me rend confortable, donc elle peut rester en poste » ou de toute façon, vous allez dire « elle peut pas rester ».
On est naïf ou peut-être un peu étroit si on se dit que l'enjeu, c'est que le Bloc québécois va décider de la nomination. Ça arrive pas plus que François Legault, là. La réalité, c'est que cette dame-là, dans la fonction pour laquelle elle a été nommée, commence avec une profonde méconnaissance du Québec. Moi, je pense pas que la dame a sa place ou pas sa place là. Je pense que l'institution n'a pas sa place. Je pense que de créer une patente qui est réservée à l'islamophobie, alors qu'il y a du racisme contre les gens de couleur, il y a du racisme contre les latino-américains, il y a du racisme contre les travailleurs étrangers, il y a du racisme contre bien des gens, de la discrimination contre les minorités de genre ou les minorités sexuelles. Il y a de la discrimination dans bien des secteurs. Si on veut créer une institution qui va permettre le rapprochement entre des groupes qui se connaissent pas bien, entre des groupes qui ont une méconnaissance les uns des autres, faisons ça loin de la sphère partisane étroite de calcul politique pour une prochaine élection. Ça pourrait devenir un forum de discussion pas pire. Mais de pointer du doigt les Québécois en créant une institution où on utilise le mot islamophobie, qu'on pointe toujours vers les Québécois, même si, à ma connaissance, l'attentat de London, où je suis moi-même allé présenter mes condoléances aux gens, mais c'était pas au Québec, cette affaire-là. Et cette association répétée entre la volonté québécoise de laïcité et l'islamophobie, qui ne tient la route ni au niveau sociologique, ni au niveau historique. Ben, ce sera déjà un acquis avoir expliqué, mais je m'attends pas à ce que demain matin, on dise continuer à parler d'islamophobie contre les Québécois, parce que ça, c'est l'intention de Justin Trudeau. Elle n'en est que l'instrument.
Mais pourquoi Justin Trudeau voudrait nous faire passer pour des racistes en permanence? Parce qu'il veut faire des gains dans les villes, son électorat un peu de gauche. Le chef du NPD a l'air assez confortable avec la nomination. Vous ramenez ça carrément à un calcul politique en disant « me fous pas mal du Québec en autant que j'ai mes appuis ailleurs ».
Je ne peux pas croire que Justin Trudeau est suffisamment mal informé, malgré son héritage discutable à cet égard-là, pour vraiment penser que les Québécois sont plus racistes que les autres, quoi que ce soit du genre, ou qu'il a un intérêt à dire qu'ils sont plus racistes que les autres parce qu'ils vont l'aimer à cause de ça. On n'aimera pas Justin Trudeau parce qu'il nous traite de raciste. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui l'aime à cause de ça. On le voit dans son propre conseil des ministres, des gens qui disent « Hey, il a raison d'engager quelqu'un qui a déjà dit qu'on était des racistes, qu'on était à l'extrême droite, qu'on était toutes sortes de patentes. » Il y a des gens qui aiment ça dans sa gang. Et il y a, en effet, veut pas, plus de comté dans le très grand Toronto qu'au Québec. Et c'est ça, le prochain champ de bataille électorale. Maintenant, M. Trudeau me consulte pas sur ses stratégies politiques, mais je le consulterai pas ses miennes, par contre. Puis s'il continue à laisser entendre que les Québécois sont de moins bon monde que d'autres, alors qu'on reçoit largement plus que notre ratio d'immigrants ou de demandeurs d'asile au Québec, mais il va en payer le prix, parce que tôt ou tard, tout minoritaire qu'il est, il va se retrouver en campagne électorale. Et les Québécois sont, à mon avis, bien écœurés de se faire traiter de racistes.
M. Blanchet, merci. Bonne journée. On va attendre de voir le dénouement de cette rencontre. Et François Blanchet est le chef du Bloc québécois, pardon.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, vous savez que le gouvernement a cette bonne habitude pour garder des employés au travail dans des périodes là, de rareté puis de pénurie de main-d'œuvre, d'offrir des primes. M. Legault a offert des primes. Tous les ministres dans le réseau de la santé et des services sociaux ont offert des primes. Lionel Carman, qui est responsable des centres jeunesse, a offert des primes. Et là, on découvre que au CIUS du Centre-Sud, ben d'abord, ça a pris du temps pour avoir les primes, puis des employés qui ont eu les primes se sont fait dire des mois après que finalement, ils n'avaient pas droit à ces primes en question. Caroline Letarte-Simoneau est de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Madame Letarte-Simoneau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, je veux comprendre, là, ce sont des employés de centre jeunesse là, dont on parle.
Ben, en fait, c'est toute la complexité avec justement l'application de cette prime-là. On vient définir en fait la mission à laquelle la prime s'applique. Dans le cas qui nous occupe, c'est la mission Centre Jeunesse. Donc, qui comprend des représentants là, de la direction de la protection de la jeunesse et aussi de la direction du programme jeunesse en lui-même. Mais effectivement, là, la problématique qui s'est posée, c'est que cette prime-là a été appliquée aussi à des gens qui travaillent dans la mission CLSC. Et c'est ces gens-là qui ont
été vous êtes en train de me perdre. Là. Parlez-moi de ceux à qui on l'a appliqué. Là, la mission, je sais pas quoi, là, c'est quoi exactement?
Ben, vous vous souvenez, à l'époque, avant les CIUS, il y avait des missions, c'était Centre Jeunesse, des PJ. Et là, effectivement, c'est qu'au sein des services, les frontières se définissent par des unités administratives plus claires. Et à ce moment-là, les gens qui travaillent en CLSC donc, qui offrent des services en jeunesse, mais qui sont pas couverts par la mission formelle Centre Jeunesse, avec les obligations de la loi et tout ça, sont les gens qui ont été visés, qui ont reçu la prime, qui n'auraient pas dû la recevoir au départ, mais il y a eu tout un cafouillage là, effectivement, entourant là, le versement de cette prime-là.
OK. Ces gens-là font une job terrain auprès des jeunes, mais ils sont pas dans la bonne case administrative pour recevoir la prime.
Exactement, au sens de l'application de la prime. Ouais.
La prime, elle est de combien?
La prime, elle est de l'ordre de 4 %. C'était une prime qui avait été obtenue lors de la dernière négociation nationale et qui visait là, la reconnaissance des intervenants qui œuvrent là, dans la mission Centre Jeunesse. Donc, l'équivalent, je vous dirais, là, pour une personne professionnelle, donc qui est à peu près là, au maximum de son échelon, là, ça peut représenter environ 135 $ par paye.
Par paye. Ça a pris combien de temps avant que ça soit payé?
Ben écoutez, la convention collective a été conclue en janvier dernier. Nous, on a le plus gros, on représente quand même le plus gros centre jeunesse au Québec. Donc, on a fait des pressions. On est sorti médiatiquement même en septembre dernier, fin septembre. Ça a activé un peu le dossier. Donc, on nous a avisé en octobre qu'on ferait une première mécanique de versement. Ça, c'est des versements manuels, faut dire, là, qui sont faits parce que les systèmes logiciels n'arrivent pas à rendre automatique le versement des payes. Et ça, c'est pas réglé à l'heure actuelle. Mais on s'est rendu compte, là, je vous dirais, déjà à la mi-octobre, on avait des indications. Et on était en démarche auprès de l'employeur parce que des gens ont communiqué avec nous pour essayer de comprendre les sommes qu'ils avaient versées. Et c'est là qu'on a commencé nous, à réaliser que effectivement il y avait des primes qui étaient peut-être pas versées adéquatement.
OK. Là,
donc,
c'est,
on a fait...
Si je résume, là, pour que ça soit bien clair pour les gens qui nous écoutent. Il y a des employés qui ont reçu des primes puis normalement, ils n'auraient pas dû en recevoir. Mais ils ont reçu quand même. Vous me dites que ça a pris du temps parce que en 2023, on rentre ça à la mitaine dans le système parce qu'on n'est pas capable de le faire de façon informatique.
À l'heure actuelle, c'est une problématique, effectivement, avec le fournisseur de services du CIUSSS.
OK, fait que ce sont des employés du CIUSSS qui font ça à la mitaine parce que le fournisseur, la compagnie qui gère ça, n'est pas capable de rentrer les données?
Ben là, je laisserai le service du CIUSSS de la paix là, vous confirmer comment est-ce qu'eux, ils l'organisent, là, mais c'est pas automatique à l'heure actuelle et ce n'est toujours pas le cas à l'heure où je vous parle.
OK, fait qu'il y a eu des erreurs. Donc, il y a des gens qui ont eu l'argent puis qui n'étaient pas supposés le recevoir, même si théoriquement, on peut dire que normalement, peut-être qu'ils auraient dû l'avoir. Puis là, quoi, ils remboursent, il y a un prélèvement sur la paie?
Ben en fait, c'est ça. C'est que théoriquement, dans la convention collective que ça prévoit, c'est qu'il peut y avoir effectivement une récupération de cela, mais c'est quand même balisé. Là. C'est-à-dire qu'à la base, on va récupérer, c'est en fonction d'une mécanique qui est convenue entre l'employeur et les personnes salariées. Et à défaut d'une entente, il y a un maximum, il y a un plafond qui est applicable de 10% du salaire. Mais actuellement, l'enjeu en a été un beaucoup aussi de communication, c'est-à-dire qu'il y a eu des récupérations sans que les gens ne sachent, n'arrivaient pas à communiquer avec la paie non plus pour convenir clairement d'entente. Nous, on avait l'information en novembre là, que c'était 237 personnes qui étaient visées par des récupérations. Et dans notre cas, ça nous a même amené carrément là à déposer aussi une mise en demeure à l'employeur là au début décembre là, pour que cesse des récupérations et tout ça, puis qu'on puisse là justement s'assurer qu'on respecte le principe de convenir d'entente avec les salariés. Vous conviendrez avec moi qu'on parle de reconnaissance, est à la veille de la période des fêtes. C'est clairement pas un facteur, disons, qui encourage les gens à se sentir appréciés par leur employeur, puis ça leur donne pas vraiment le goût là, à l'heure actuelle.
J'ai l'impression qu'on est en 1952 quand je vous écoute rentrer à la mitaine des données, là, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Caroline Letarte-Simoneau et du syndicat L'Alliance qui représente le personnel professionnel technique de la santé et des services sociaux du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Mais là, on se comprend, là. On comprend ce que ça veut dire. Là. Puis c'est un peu ça quand on parle de contribuer. Puis je dis pas que les syndicats sont parfaits, là, puis qu'il y a des syndicats bien, bien rigides. Mais comment perturber un climat de travail pécœuré du monde? Dans un premier temps, on te dit, toi, t'as pas le droit à la prime. Tu dis, pourquoi moi, j'aurais pas droit à ça? Puis c'est toujours compliqué de ranger, mais t'as pas le droit. Finalement, on te donne la prime. Puis là, on s'aperçoit que faut que tu rembourses. Puis là, on découvre que dans le CIUSSS du Centre-Sud, là, ils font ça à la mitaine. Ce sont des employés qui rendent ça parce que, sur le plan informatique, la firme s'appelle Logibec. Ils n'ont pas l'air à être capables de rentrer ça ou c'est pas dans les programmes ou je ne sais pas. Mais l'erreur vient donc des employés du CIUSSS qui ont rentré ça à la mitaine. Comprenez-vous que, un, ça décourage le monde, deux, ça pourrit le climat de travail, puis que, trois, ça illustre à quel point on est loin, loin, loin en arrière, puis que c'est compliqué, puis que les conventions collectives puis gérer tout ça, puis de s'assurer que les payes arrivent dans un délai raisonnable. Peut-être que dans la nouvelle agence de santé, ça va mieux fonctionner, c'est bon. Mais là, ça, c'est un exemple pour écœurer le monde d'aplomb.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, on a des chiffres concernant la violence dans les écoles. Il faut toujours être prudent avec les chiffres. On a le portrait avant la pandémie, le portrait après la pandémie. Et dans certains centres de services scolaires, je pense à Beauce, Lac et Chemin, dans ce coin-là, ben il y a des croissances. Puis là, il y a des profs qui disent « Ouais, mais attention, on les compte différemment les cas, il y a plus d'élèves. » Et c'est la députée de Saint-Laurent, qui est la porte-parole de son parti en matière d'éducation, qui a obtenu les données. Marois Risquet est avec nous. Madame Risquet, bonjour.
Bonjour.
Bon, de la violence puis des affrontements dans les cours d'école entre élèves, des profs qui sont menacés, on sait que c'est un problème grave, c'est un problème récurrent. Mais quand vous regardez ces données, est-ce que vous avez l'impression que c'est pire?
Ben écoutez, moi, semaine après semaine, je voyais qu'il y avait des actes de violence qui étaient rapportés dans les médias. C'était des actes de violence assez violents. On parle des bagarres à coups de marteau, des jeunes qui sont faites poignarder. Je pense notamment à Jonathan Dolpey qui en est mort, qui a été poignardé dans le stationnement de son école à la sortie des classes. Et par conséquent, j'ai fait une demande d'accès pour voir est-ce que ça se reflète dans les données. Et j'ai pris l'année de référence avant la pandémie et l'année de référence 2021-2022, et dans bien des cas, ça a augmenté de façon substantielle.
Puis est-ce que vous avez parlé à des profs? Je vous donne un exemple, là, on en a parlé ce matin, il y a une enseignante qui m'écrit, qui travaille au primaire, et elle dit, ça n'a rien à voir avec la pandémie, là, s'ils sont plus agressifs. Au préscolaire, on doit maintenant, dit-elle, garder au régulier des élèves qui font constamment des crises parce que eux, ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire, les classes sauterelles de troubles de comportement, ben dans bien des cas, ça a été annulé. Puis là, il y a un mix, puis bon, toujours la même chose, problème de personnel. Autrement dit, des enfants qui devraient pas nécessairement être là, mais qui, évidemment, sont laissés à eux-mêmes puis pètent des crises.
Ben moi, je suis très honnête avec vous, j'ai pas la réponse du pourquoi. Et c'est pour ça que je fais une demande de mandat d'initiative. Est-ce que c'est le temps d'écran? Est-ce que c'est le fait que plusieurs jeunes ont été confinés? Moi, j'ai eu, oui, des professeurs qui m'ont écrit, mais j'ai aussi des parents qui m'ont écrit pour me dire que mon jeune, je ne le reconnais plus durant la pandémie. Alors, moi, je pense qu'il y a eu des effets. Est-ce que j'ai la réponse aujourd'hui? Non. Et c'est exactement pour cela que je demande un mandat d'initiative. Et pour ce qui en est du personnel de scolaire, l'année 2020, il y a eu, en 2020 et 2021, il y a eu 500 membres du personnel scolaire qui ont été indemnisés par la CNSST et l'année suivante, ça a augmenté à 911. C'est quand même presque, je vous dirais, une augmentation de presque 40%, là.
OK, mais je vous connais quand même un peu, là. Vous devez avoir une petite idée du pourquoi de. Il n'y a pas une réponse unique, là, mais vous devez avoir en tête des pistes de recherche au moins.
Ben moi, ma piste de recherche, je pense qu'il faut que oui, on se pose des questions. Est-ce qu'on a les outils? Est-ce que lorsqu'un parent lève la main et qu'il dit, bon, moi, je reconnais pas mon jeune, est-ce que l'aide arrive suffisamment rapidement pour épauler le parent qui voit le caractère de son jeune se détériorer? Est-ce que le problème au niveau des armes, moi, je crois que on devrait vraiment regarder de façon plus particulière tout ce qui est des armes, non seulement armes blanches, mais les armes à feu. J'ai jamais vu autant de jeunes avoir accès à des armes à feu. Moi, ça me trouble. Et le temps d'écran, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas expert dans ce dossier et je veux justement aller au fond des choses et je veux qu'on tourne toutes les pierres parce que, M. Arcan, on dit souvent qu'un jeune ne peut pas apprendre le ventre vide, mais ne peut pas apprendre non plus avec la peur au ventre.
C'est clair. Mais je vous donne un cas, là. Puis j'allais dire, malheureusement, là, c'est un cas à répétition au Québec. C'est une mère qui m'écrit. Son enfant est au primaire. Depuis la maternelle, il est victime de violences physiques, verbales, de bullying. Il se fait étrangler. Il y a un problème de poids, puis il se fait mettre dans le visage, évidemment, tous les jours. Et c'est un enfant qui est terrorisé. Et c'est la version de la mère, là. Je vous dis pas que c'est vrai à 100%, mais elle ne sent pas une très grande collaboration de l'école face à ce problème-là. Puis c'est pas la première fois qu'il y a des parents qui trouvent que l'école semble, disons, pas prête nécessairement.
Ben. Moi, je vais vous dire, quand j'ai lu l'article d'Alexandre Duval, il y a des réponses de certains centres de services scolaires. Là, pour moi, n'est pas de pointer du doigt, mais je ne peux non plus minimiser. Puis l'intimidation, pour moi, c'est juste à la frontière de la violence. C'est-à-dire qu'on intimide, puis par la suite, on passe à l'acte. Alors, c'est pour prendre ça très au sérieux, les actes d'intimidation. Puis quand je vois qu'une jeune fille se fait tabasser à coups de pied sa tête, au risque d'avoir une commotion cérébrale dans une école, pour moi, là, ça devient inacceptable. Puis ça veut dire que tout le monde doit prendre la pleine mesure, non seulement l'école, les parents, les jeunes, et nous, par la suite, il faut qu'on développe des outils en amont, avant qu'on arrive au geste de violence. Parce que le jeune qui a été intimidé un paquet de fois, ça se peut qu'un jour, là, il pète sa coche puis il décide, moi, je vais régler le cas.
Merci beaucoup
d'avoir. Pas qu'on arrive.
Non, absolument, vous avez raison. Merci, Marois Risky. Bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Député de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Et je vous le dis, les témoignages, c'est pas d'hier là, qu'on parle de ces problèmes-là. Puis il n'y a pas grand prof qui m'ont écrit ce matin qui mettent ça sur le dos de la pandémie. Tu sais, la pandémie, ça commence à avoir le dos large. Et c'est peut-être, disons, une excuse, entre guillemets, facile ou une réponse toute faite. Mais en tout cas, je vous dis que les enseignants qui me parlent ce matin, là, sont pas du tout de cette avis.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On s'y attendait, mais la nouvelle est tombée tantôt. Tom Brady qui prend, j'allais dire, encore une fois sa retraite.
Ouais, officiellement sa retraite. 45 ans, Brady, 7 fois champion du Super Bowl. Et là, a fait ça de façon officielle, par les réseaux sociaux, une vidéo extrêmement émotive. Écoutez ce que ça donne.
Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good. Really, thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors. I could go on forever. There's too many. Thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change a thing. Love you all.
Donc voilà, vidéo de Tom Brady ce matin annonçant officiellement sa retraite. 22 saisons dans la NFL, 7 fois champion du Super Bowl. Écoutez, le gars directement s'en va au temple de la renommée, ça c'est sûr et certain. Valeur estimée à 250 millions de dollars quand même. Passé une belle carrière du côté de la NFL. Donc Tom Brady qui prend sa retraite, il était avec les Buccaneers de Tampa Bay. Bon, là on a Tom Brady qui est l'ultime professionnel, l'ultime vedette sportive. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. Il y a du sport amateur, puis il y a du sport qui nous amène dans d'autres directions. Au tournoi Pee-Wee de Québec, il y a une jeune formation de l'Ukraine qui sera là. Et d'ailleurs, les joueurs arrivent aujourd'hui, cet après-midi, du côté de l'aéroport ici à Montréal. Et c'est 17 joueurs, 2 entraîneurs qui s'en viennent ici. On a vu une histoire dans le Journal de Montréal où il y a un gars d'ici, un gars du Québec, Sean Bérubé, qui est parti là-bas. Il était le facilitateur pour aller chercher des jeunes en Ukraine, les amener jusqu'à la frontière de la Roumanie pour qu'ils puissent aller rejoindre l'équipe parce que l'équipe s'entraînait en Roumanie. Et est arrivé une multitude d'aventures. Sean Bérubé est avec nous. Bonjour, Monsieur Bérubé.
Oui, bonjour.
Dans un premier temps, expliquez-nous quel est le lien entre vous et l'Ukraine? Comment se fait-il que vous étiez le facilitateur?
OK, ben c'est ça remonte à là, 30 ans. Là. Moi, dans le fond, quand j'étais adolescent, là, de 14 à 17 ans, j'ai joué au hockey en Ukraine. Après que, dans le fond, mes parents avaient hébergé là, une équipe de hockey ukrainienne du tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que ça a commencé là, 30 ans à partir du tournoi Pee-Wee de Québec. Et puis après, j'étais allé jouer là-bas là, durant mon adolescence.
Et comment ça s'est passé, arriver à la frontière de la Roumanie? Pas été facile pour aller chercher les 4 jeunes, là?
Non, il y a plus, dans le fond, on avait un plan de match au départ, puis en se levant le matin, là, il y a plein d'affaires qui s'est passé, là, grosse tempête, on est obligé de changer là d'endroit où qu'on allait ramasser les jeunes. Après ça, ben moi, il y avait l'auto là, que c'était en allant chercher une grosse vanne, j'ai réalisé que c'est une auto à clutch. Je savais pas comment conduire ça. Parce que plein d'affaires qui s'est arrivé là, c'était là, je peux en rire là, mais durant que ça se faisait, c'était un peu stressant.
Et là, ce que j'ai compris, c'est que l'entraîneur de l'équipe ukrainienne, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà joué au hockey, c'est ça?
Ouais, dans le fond, c'est ça là. Le 30 ans, là, on était sur le même trio, là, donc je le connais très bien. Là. Et puis quand il y a eu le projet là cet été là, moi je l'avais rencontré au mois de mars parce que j'étais allé chercher là justement notre entraîneur qui était ma famille d'accueil dans le temps. Là. Fait que une trentaine d'années, au mois de mars, j'étais allé chercher là des réfugiés là, en Roumanie, puis lui m'avait aidé. Puis après ça, ben c'est là qu'on autour d'une bière là qu'on avait comme discuté du projet à la blague là. T'sais, lui il voulait faire venir une équipe là de Roumanie au tournoi Pee-Wee de Québec, là que je l'aide. Puis là, ben on venait de faire sortir des réfugiés ukrainiens. Fait que j'avais lancé à la blague comme ça que si c'est une équipe que je faisais venir, ça fallait que ce soit une équipe de réfugiés ukrainiens.
Okay,
là, ben, lui, il a pris ça sérieusement, là, puis après ça, ben là, on en est là aujourd'hui.
Bon, il va y avoir le tournoi. Après, les jeunes retournent dans leur pays. Qu'est-ce qui se passe avec eux?
Ben là, ils vont retourner là à. Il y a des familles qui sont toujours en Ukraine. Eux, ils vont retourner là. Les autres qui sont réfugiés dans d'autres pays, ils vont retourner avec leur mère. Là. Donc là, c'est sûr qu'ils retournent. Mais dans le fond, les jeunes, ils viennent seuls avec l'entraîneur. Là. Fait qu'ils viennent pas ici pour rester. Là, ils viennent pour l'expérience du tournoi. Là. Mmh. Oui.
Racontez-nous. Vous parlez couramment russe. Racontez-nous comment les jeunes sont, parce que tu sais, on a beau dire c'est le fun, ça vient au tournoi Pee-Wee de Québec, mais ils sont quand même dans un pays qui est en guerre présentement. Ouais. Quel genre de conversation on a?
Ben là, présentement, là, ils m'ont envoyé justement des vidéos là quand ils étaient à l'aéroport ce matin là. Puis là, on les voyait là à chaque fois qu'ils font des photos de groupe là, ils crient tout ensemble. Pee-wee. Donc on voit que les jeunes présentement ils trippent là. Tu sais, c'est un peu le but là de ce voyage là. C'est de leur donner là une expérience pour leur faire changer là l'esprit là de tout ce qui s'est passé pour eux là durant les derniers mois là.
Parce qu'il y en a qui sont impliqués, il y a des parents, il y a des jeunes là, les parents sont impliqués directement dans la guerre là.
Ah ouais, c'est ça là, on a présentement là trois jeunes là, tu sais, je nommerai pas les noms là, mais que leurs parents là sont, que leur père là est vraiment là
au front,
dans les zones les plus dangereuses là d'Ukraine présentement.
Fait que vous serez durant le tournoi Pays de Québec le lien, un peu vu que vous parlez russe, serait lien avec tous ceux qui voudront s'entourer, parce que là je voyais il y avait le New York Times qui avait demandé une accréditation, radio oui. RF1 qui a demandé une accréditation, on lisait ça dans le Journal de Montréal également. Il voit de l'activité alentour d'eux autres, ça c'est sûr ça.
Oui, c'est ça là. C'est puis eux autres, ils s'attendent pas à ça, les jeunes là. Même il y avait là Stéphane Turcot là de TVA qui est allé faire un reportage là-bas, puis il avait demandé à un jeune qu'est-ce que ça fait là s'il jouait là devant 15 000 personnes. Puis le jeune, il croyait pas ça. Il disait, non, c'est seulement que la Ligue nationale que ça se peut des foules comme ça. Donc c'est eux autres, s'attendent pas à ça là, mais c'est sûr qu'on va on va s'assurer là, tu sais, qu'ils peuvent se concentrer sur leur match là, parce ouais. C'est des petits gars qui sont très très sérieux quand même là. Ils veulent ici, ils veulent bien performer là. Ils sont fiers de leur pays là, puis ils veulent bien représenter l'Ukraine.
On leur souhaite beaucoup de succès, Monsieur Bérubé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Plaisir.
Merci, au revoir. Sean Bérubé, donc homme d'affaires, qui est facilitateur pour amener justement des jeunes Ukrainiens du côté du tournoi Pays-Bas de Québec. Oui, c'est une belle histoire. Tu sais, on se parlait du sport professionnel, mais eux vont vivre quelque chose de différent, puis ça fait du bien utiliser le sport pour changer les idées, justement. Je te parle du Canadien qui s'est incliné hier 5-4 face au sénateur d'Ottawa. Raphaël Harvey-Pinard marque deux fois. Lui, 5 buts, une passe à ses 7 derniers matchs, quand même, ça va bien pour lui. N'a pas été retourné avec le Rocket de Laval. Par contre, Alex Belzile et Jesse Ilonen, eux, ont été retournés. Et je terminais en te parlant de football de la NFL. Écoute bien. Sean Payton était analyste à la télévision parce que avait remis sa démission comme entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et les Broncos de Denver voulaient avoir Sean Payton comme entraîneur-chef. Fait que donc, on a dû négocier avec les Saints. Donc, Sean Payton s'en irait comme entraîneur-chef avec les Broncos en échange d'un choix de premier tour et d'un choix de deuxième tour en 2024. Donc, il y a transaction d'un entraîneur et c'est pas la première fois qu'on vit ça. Souvenez-vous, Michel Bergeron avait été changé aux Rangers de New York. Et là, je suis allé chercher qu'est-ce que ça coûtait à l'époque. En 87, un choix de premier tour des Rangers de New York et 75 000 $ donc pour passer des Nordiques et devenir entraîneur-chef avec les Rangers. Donc, le Tigre a fu le premier à faire ça.
Merci, monsieur.
Merci, plaisir.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.